93.
Bonjour Diane.
Bonjour.
On est en onde. D'abord, une réaction justement, courte réaction sur le prix plancher de l'essence.
En fait, c'est une réaction au fait que le ministre Fitzgibbon s'est fait poser la question, est-ce que ce serait une bonne idée de baisser les taxes sur le carburant? Il a répondu, non, au contraire, il faudrait les augmenter. Et là, il vient de faire une petite publication en disant qu'il a été mal cité. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui arrivent lorsqu'on improvise. Voilà,
oui. C'est tout. Ben, je pense que M. Fitzgibbon a le défaut de ses qualités. Tu lui poses une question, tu as une réponse.
Exact.
Mais des fois, peut-être que quelqu'un au bureau du PM l'appelle pour dire, hey, écoute,
c'est
peut-être
pas
que...
C'est impossible.
Je veux t'entendre sur Phoenix, le fameux système de paye du gouvernement fédéral qui a jamais vraiment fonctionné. En fait, c'est quoi? Il a jamais pleinement fonctionné. Ottawa pourrait le mettre aux poubelles.
Exact. Et on sait que ça a causé, là, après 4 milliards de dollars, ça a causé des soucis financiers et humains à des centaines de fonctionnaires. Est-ce que la décision aurait dû être prise avant? Quelles sont les raisons de cet échec-là? Parce que si on ne comprend pas bien, si le gouvernement ne comprend pas bien, le deuxième essai, ben, il pourrait l'échouer également. Juste un rappel, c'est dans quelque part 2009-2010 que le premier ministre Harper avait annoncé de remplacer le système de paye. Il parlait d'économie annuelle de 70 millions à l'époque. On se comprend que ça s'est pas livré.
C'est un échec bipartisan, faut le dire.
Oui. Quoique, j'ai entendu Dimitri Soudas, directeur des communications de M. Harper, dire aujourd'hui, on ne peut pas blâmer l'actuel gouvernement. Enfin, c'est une autre histoire.
Ah, M. Soudas qui a pris la part du gouvernement Trudeau.
Oui, il a fait un gros mea culpa.
D'accord.
C'est important de rappeler que ce sont des projets extrêmement complexes. On parle de 80 000 règles à introduire dans ce système-là, 16 000 scénarios de rémunération. T'es-tu un employé à temps plein, temps partiel, t'es-tu en congé de maladie? C'est extrêmement complexe. Donc, évidemment, ils vont tirer la plug. Je présume qu'ils ont dû analyser un peu les échecs. Même chose, il est sûr. Parce que moi, j'ai joué là-dedans, là, pas évidemment à cette hauteur.
Quand t'étais à la Commission de la construction du Québec.
Ça finit toujours être pareil, les problèmes dans ces problèmes.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, des objectifs pas clairs, des besoins pas bien fixés, des échéanciers pas respectés, des décisions qui sont prises tardivement. Un leadership, une gouvernance qui est faible, c'est à peu près toujours le même problème. Mais il y a une chose qui est sûre. Dans les projets aussi complexes, et la littérature, et les experts sont clairs, la stratégie du bing-bang, c'est-à-dire de vouloir tout implanter en même temps, c'est un échec.
Et on a vu ça à moindre échelle, mais à la Société de l'assurance automobile du Québec.
Exactement. Donc, il faut scinder les projets, les faire en étapes, livrer le module 1, puis après ça, le module 2. Et ça prend plus de temps, ça peut coûter quelquefois plus cher, mais on n'en risque pas des dérapages qui ont eu des conséquences pour les humains.
Mais oui, il y a des gens qui ont fait faillite. Des fonctionnaires fédéraux qui ont perdu leur maison à cause de ça.
Puis ça, il y a des responsabilités partagées là-dedans. Tu sais, j'imagine que Justin Trudeau, il faisait pas des comités de direction du projet Phoenix à tous les matins, là. Fait qu'il y a des responsabilités politiques, il y a des responsabilités aussi des ministères. Il y a une initiative récemment dans notre environnement qui a fonctionné pas mal bien. C'est la petite application pour prendre des rendez-vous COVID, vaccination, qui a été faite par le gouvernement du Québec.
Oui.
Mais la portée était... L'objet était mince.
Diane, si tu permets là-dessus, là, puis je vois M. Dubé là, qui fait une tournée dans les télés en information continue. M. Dubé nous rappelle toujours à quel point c'était un succès. Je veux pas minimiser le succès de la vaccination au Québec, mais c'était quand même... assez linéaire. Tu rentres à une extrémité.
Oh oui.
Tu te promènes.
Ben, au moins, ils ne sont pas bourrés.
Et tu sors. Non,
exact.
Je comprends. Mais c'est un peu plus difficile de gérer soins à domicile.
Exact.
Là.
L'autre affaire qui est un peu cocasse, en fouillant, ce matin, je suis tombée sur un guide de 22 pages qui s'appelle « Qu'est-ce qui prévient la réussite des grands projets en technologie? » C'est excellent pour avoir lu beaucoup là-dessus et avoir travaillé. On aborde tout, là. La gouvernance, comment on gère les risques, la capacité dans les organisations, l'importance de la relation avec les fournisseurs. Eh bien, ce document-là, formidable, a été publié par Services Partagés Canada.
Qui n'est pas capable d'appliquer
qui ont pas suivi leur guide.
Ses propres recommandations
exact.
À l'interne.
Je ne veux pas être cynique. C'est des projets complexes, mais ça a eu des effets, là. Ça a eu des effets importants. Et c'est clair qu'il faut que le gouvernement réunisse les conditions parce qu'ils ne peuvent pas se permettre un deuxième échec.
Je pense que tu as raison. OK, je veux qu'on parle de Québec solidaire. Revenons au Québec. Quand tu étais au PQ, parce qu'il faut le rappeler, tu n'as pas juste été la dirigeante d'une main de fer à la Commission de la construction du Québec, tu as aussi été recrutée par Lucien Bouchard. Il y a une vie de ça en politique québécoise. Il y avait beaucoup de belles-mères au PQ.
Oui.
Et là, Québec solidaire découvre le concept des belles-mères. C'est
exactement
quoi ça?
Ben, c'est quelqu'un qui a décidé, ou enfin qui n'est plus dans les instances officielles, mais qui commente.
Publiquement.
Publiquement. Bon, Françoise David a publié une lettre ce matin. J'ai entendu Amir Kadir aussi intervenir
Madame
ce matin.
Dorion.
Madame Dorion. Ça se comprend, là, dans le sens qu'ils sont cofondateurs du parti, ils ont à cœur les intérêts du parti. Mais quand on se retire, on se retire. Parce que c'est très... Ça crée des conflits de loyauté. Ça crée de la distorsion. Et ça fait en sorte que les instances actuelles, bien, ça fait beaucoup de distractions. Et pour les gens à l'intérieur, je pense que je ne dévoilerai pas de secret d'État lorsque M. Parizeau, Dieu et son âme, intervenait alors que M. Bouchard était premier ministre. C'était pas le fun, là. Alors, je comprends tout ça, mais c'est déjà assez difficile pour Québec solidaire de tout vouloir régler en public, c'est pas toujours une bonne idée. Il y a des forums pour ça, ils s'en sont donné des forums, ils ont un conseil, je sais pas comment ils appellent leurs instances.
Regarde, le PQ a eu ses débats, là. Je me rappelle de l'association de comté de Montréal-Centre qui se levait pour demander comment ça se fait, tu sais, dans les congrès nationaux.
Oui.
Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un référendum hier, par exemple.
Exact.
Là, évidemment, ça plongeait les leaders dans l'embarras. Mmh. À Québec solidaire, il y a un phénomène qui est très particulier. Puis, c'est ces gens qui veulent pas nécessairement gagner. Mm-hmm. Qui veulent, si on arrive au pouvoir, puis là, tu sais, ils s'écrivent des lettres, puis je veux dire, c'est magnifique de poésie, puis ils expliquent comment, là, si on arrive au pouvoir, faut qu'on soit porté par le peuple. Ça te prend 40% pour gagner puis former le gouvernement. Puis quand tu gouvernes, ils ont pas l'air de comprendre que c'est là que tu changes le monde.
Exact. Puis il y a quelque chose qui ressemble un peu à tous les débats autour de est-ce qu'on tient ou pas un référendum. Mais pouvoir tenir un référendum, il faut que tu sois aussi au pouvoir.
Ouais.
Mais certains d'entre eux, puis moi j'ai moins été dans cette époque-là, mais certains d'entre eux, le plus important c'est de tenir un référendum, quitte à ne pas être au pouvoir. Alors ils sont un peu dans ce dilemme-là.
Chez Québec solidaire.
Ah, définitivement. C'est, puis je comprends les intentions nobles, etc., etc., mais maintenant, il y a un test de réalité, là.
Mais Diane...
Ils sont en pente descendante.
Ils sont en pente descendante en plus. Mais chez Québec solidaire, là, ils parlent beaucoup de... comment ils disent ça? Ils disent qu'il faut... Ah oui, on est un mouvement, pas juste un parti. Tu comprends-tu cette nuance-là?
Je comprends très bien, mais...
C'est quoi la nuance?
C'est parce que je cherche le mouvement, là. Et où le mouvement? On le sent pas. Il y a toutes sortes de... Il y a tout un réseau, par exemple, ils sont très branchés, puis ça s'explique aussi le réseau communautaire, économie sociale, etc. Mm-hmm. Mais y a-t-il un mouvement derrière? Moi, je le vois.
Y a-t-il un début de vague, là?
Je le vois pas. Puis je pense que les dernières élections, leur score a été très difficile.
Là, il y a un sondage qui annonçait qu'ils ont perdu, semble-t-il,
exact.
Un tiers de leurs appuis
exact.
Depuis quelques
fait que c'est
semaines.
Pas, ils sont à la croisée des chemins, à mon avis. Ils sont vraiment à la croisée des chemins.
Est-ce que c'est un parti
chemins?
Qui peut imploser?
Il y a des conditions. Il y a des conditions actuellement là où ils pourraient imploser parce que, comment je dirais donc, c'est des positions tellement tranchées et difficilement réconciliables. Regardons les deux pôles, là. C'est difficilement réconciliable. Et comme plusieurs d'entre eux, le plus important, c'est que leur point de vue puisse être adopté et être suivi et qu'ils ne sont pas aptes à, je dis pas des compromissions, mais à trouver... des terrains d'entente, certains consensus, à trouver une certaine adhésion.
Bref.
Si dans des positions marquées comme ça, ça peut juste craquer en deux, là.
Tout ce qui est reproché à M. Nadeau-Dubois.
Probablement.
De vouloir faire des compromis pour gagner.
Ah, c'est pas simple ce qu'il vit. Je suis très bien chez moi.
Merci beaucoup, Diane.
Merci.
T'es pas là demain, mais on va se retrouver après le congé de lundi, mardi prochain. Merci.
Parfait. Bon week-end.
RCFM 93, la référence en information.
le fait là, que certains centres commerciaux se réinventent,
oui.
Il va peut-être falloir que les nôtres aussi se réinventent. Là.
Très bon argument.
Si on perd des joueurs à Rivière-du-Loup, comme la cage au sport, là, c'est un signal d'alarme là, solide pour
exact.
Les autres.
Ça va vraiment brasser à Toronto. Ça s'impose. J'ai pas de problème particulier avec Luke Hughes. Le seul problème, c'est que selon moi, il y a quelqu'un qui le mérite plus que lui. Sa nomination au Trophée Calder, c'est Piotr Kochetkov, gardien de but des Hurricanes de Caroline, qui a été sensationnel en l'absence de Freddie Anderson et Antti Raanta, qui n'arrêtait pas un ballon de plage. Selon moi, il méritait une nomination pour le Trophée Calder, mais étant donné que c'était un Hughes, mais on a donné la nomination à Luke.
L'entreprise d'Elon Musk a embauché des gens à 65$ de l'heure pour conduire une luxueuse Tesla. Avez-vous des emplois comme ça à nous offrir? Donc, appelez-nous.
Réveil Rimouski à CFX FM 93.
Le club de golf du Vic propose une nouvelle tarification dynamique et des prix à la baisse. Notamment un rabais de près de 300$ sur un abonnement de saison pour les actionnaires qui font un retour. Réputé comme l'un des plus beaux au Québec, le parcours Bicois répond aux attentes les plus exigeantes. Voiturettes, boutiques, restauration et bars sont au nombre des services offerts. Le Vic, une passion qui s'exprime dans un décor enchanteur depuis 92 ans. Plus d'infos www.clubdegolfvic.com.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Des gâteaux ou de feu pour tout nettoyer. Calinex, on tout décontaminé. On peut signer.
C'est le sprint Santé Minceur chez Santé 2000, le club. Profitez des promotions anti-inflation allant de 15 à 50% pour un sprint rapide et efficace. Optez pour un mois tout inclus à deux entraînements par semaine avec entraîneur. Deux évaluations corporelles, entraînement illimité en salle, un cours de groupe au choix et une consultation en nutrition. Découvrez l'endermologie pour seulement $9.95 et des rabais de 30 à 50% sur les forfaits. Bienvenue au club. Inscription santé2000leclub.com, certaines conditions
C'est fixe. FM 93. Une radio de champions dans une ville de champions. Michel Turcotte, alias Capitaine Champion. Émile Clouet, le champion des recrues. Une radio de champions dans une ville de champions. C'est fixe. FM 93.
La chronique financière de Pierre-Yves McSween est une présentation de H. Grégoire Rimouski, votre spécialiste en financement automobile.
17h27, salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, donc Québec qui veut abolir le prix plancher de l'essence. Je pense quand même qu'il faut faire un peu de pédagogie encore une fois. Là. C'est quoi ça?
Alors, premièrement, tu en as parlé avec M. Pinault tantôt. Le prix de l'essence, c'était pour s'assurer à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu des guerres, il y avait des détaillants indépendants qui liquidaient leur essence pour faire pression sur le gouvernement pour dire « Vous mettez des grands joueurs détaillants et des pétrolières à côté de nous autres. On n'est pas capable d'avoir une concurrence honnête et de survivre. » Alors, le gouvernement avait dit « Parfait, on va mettre un prix plancher dans une partie de la chaîne du prix de l'essence pour vous assurer que tout le monde travaille à armes égales dans l'industrie. » Et donc, tu sais, dans le prix de l'essence, tu as le prix du baril de pétrole qui est en dollars américains qui influence le prix. Tu as la marge de raffinage, c'est-à-dire le raffineur, combien de marge il prend. Tu as le prix à la rampe de chargement, c'est-à-dire avant de partir en gros. Tu as la marge au détail, c'est-à-dire le couche-tard de ce monde, par exemple, combien il fait. Puis tu as le transport, parce que c'est sûr que amener un litre d'essence à Valleyfield, Baie-Comeau ou dans la toundra, c'est pas la même affaire. Et donc, tout ça influence nos prix de l'essence. Et évidemment, Patrick, en plus de tout ça, du prix plancher actuel et des autres facteurs, il y a le facteur très important qui s'appelle les taxes. Donc, taxes d'assises sur l'essence, taxes sur les carburants, taxes sur l'essence du Grand Montréal, et tu as aussi les deux autres taxes de bienvenue, c'est-à-dire TPS, TVQ sur les autres taxes.
Mais attends, M. Poilievre qui a suggéré aujourd'hui, justement, un congé estival de taxes fédérales sur l'essence.
J'ai trouvé ça très comique parce qu'effectivement, comme M. Pinault dit, c'est contre-productif. Et je suis un peu déçu que M. Fitzgibbon ait retiré ses paroles. Parce que d'un point de vue théorique et d'un point de vue
logique... Parce que lui disait qu'il fallait hausser les taxes sur l'essence.
Ben, c'est que Utilisateur payeur, pollueur payeur, à un moment donné, les externalités sont pas dans le prix de l'essence en Amérique du Nord par rapport à ailleurs dans le monde. Et nous, je sais que ça fait partie de notre coût des matériaux puis notre coût de transport puis qu'on est un grand pays, mais ça influence quand même le comportement du consommateur. Et donc, si tu subventionnes le consommateur et que tu perds des revenus, comment tu vas entretenir les infrastructures des routes? Et je te donne un exemple qui s'en vient, parce que M. Fitzgibbon n'est pas fou. L'éléphant dans la pièce, c'est qu'on a un parc automobile qui va s'électrifier. On a des objectifs. Je sais pas si tu te souviens de M. Couillard qui disait 2030, on veut que ça soit plus de voitures partout électriques. Et donc, comment on va prendre cette taxe de l'essence-là qu'on perd